Il sera question d'huîtres sentimentales, de pommes de terre du Népal et de substances végétales.
À mon menu, du taureau camarguais, des films à venir et des œufs lyonnais.
L'orange de Noël, un petit peu sauvage, qu'on va déguster en banquet.
Il y aura des traits d'union entre 2021 et 2022 pour dire au revoir à cette année difficile et envisager la nouvelle qui se profile.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Pour notre toute dernière émission de l'année 2021, on vous a mitonné un menu de fête aux petits oignons avec des intervenants dont vous avez peut-être reconnu la voix. Et pour cause, vous les entendez souvent le dimanche à 11h. Ce sont quelques-uns des chroniqueurs et des chroniqueuses dont on va déguster, par ordre d'apparition, Elvira Masson, Laurent Delmas, Déborah Dupont, Dominique Hutin. Salut les copains.
Salut tout le monde.
Bonjour.
Ils ont l'air d'être très en forme.
Ah oui, pleine forme.
Que se passe-t-il? Ouais, le Noël fumant.
Bah, c'est les fêtes. Ouais.
Et la Saint-Sylvestre s'annonce bien. Et ben justement, je vous propose avec quelques jours d'avance de célébrer ensemble la Saint-Sylvestre. Mais on va aussi dresser un bilan gourmand de l'année 2021. Les actus qui ont fait chauffer la scène gastronomique, les nouveautés comestibles qui ont marqué nos papilles, les lectures qui nous ont nourri le corps et l'esprit, les films qui nous ont donné faim, sans oublier plein de coups de cœur à boire et aussi une bonne louche de bonnes adresses. On vous sert sur un plateau le meilleur de 2021 à boire et à manger. Un frito misto de très bonnes infos réalisé par Laurent Thomas avec Gilles Gaillard à la technique et préparé par Nadia Chougui. Retrouvez tous les contenus de l'émission, infos, recettes, podcasts sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Vous connaissez la tradition dans cette émission, celle de cuisiner mes chroniqueurs et mes invités avec une petite dégustation à l'aveugle. Et bien là, je suis d'humeur joueuse pour cette dernière émission de 2021. Vous avez chacun en face de vous une assiette de couleur noire, mais ça veut rien dire, avec un plat bien chaud à l'intérieur. Et je complique la donne parce que j'ai servi à chacun d'entre vous une spécialité différente. À vous d'identifier une viande, une sauce, un parfum, un ingrédient et surtout de me dire si vous trouvez ça bon. Tout simplement. Allez, on soulève les cloches.
Mmh. On a tous un plat chaud ?
Il est censé être un peu chaud.
Ok.
Ah, ça commence déjà à donner de la fourchette du côté de Delmas.
Déjà, c'est de la viande, en tout cas pour mon assiette.
Bravo, Déborah.
Tous quelque chose de différent.
Moi, c'est du bœuf.
Alors, on a déjà du bœuf gagné chez Laurent Delmas. Du veau chez Déborah, gagné. De la volaille chez Elvira Masson, gagné.
Alors moi j'ai une parade de viande différente
parce que c'est ça se complique.
Bah oui, il y a un clin d'œil au cassoulet là, il y a quelque chose qui
Bravo.
Va aller de la saucisse.
Bon bah attendez et voilà, vous avez lâché le mot hein, cher Dominique. Vous êtes sur un cassoulet.
Mais le cassoulet c'est fastoche à trouver.
Dites-moi un peu ce que vous en pensez en toute sincérité. Déborah.
Je pense que ma blanquette est bonne.
Bravo. Blanquette de veau signée Guillaume Delage. Guillaume Delage étant le chef du Père Lapin à Suresnes. On est en banlieue parisienne, au paleron de veau, alors relevé de panais et de gingembre. Il réinterprète un peu.
Il y a un goût de fumée que j'aime pas. Pour le bœuf carotte, j'attends pas du fumé.
Alors c'est pas un bœuf carotte, mais il y a un goût de fumée, puisque vous êtes, cher Laurent, sur un bœuf confit grillé à l'origan, qui apporte justement cette note un peu fumée. D'accord. Et c'est un plat signé Stéphane Jégot, le chef de la Mijan, rue Mallard dans le 7e. Un paleron de bœuf longuement confit avec des carottes, des poireaux, des oignons, du gingembre et de l'origan. Elvira ?
Moi, je me régale avec une volaille archi-moelleuse.
Oui.
Une volaille cuisinée aux épices. Alors, on pourrait être un peu façon tagine. Il y a des raisins qu'on gonflait dans la sauce. Il y a des pois chiches. C'est à peu près tout ce que j'aime. Moi, c'est délicieux.
C'est ça. C'est un curry. Super. Curry avec un peu de citronnelle et de combava.
Ah ouais, c'est délicieux.
Très bien. Ça va?
Oui, bah ça va d'autant mieux que là. La part belle est plutôt donnée à la viande plutôt qu'aux haricots.
Oui.
Dans ce que je goûte là, il y a du gras. Voilà, la promesse elle est tenue. On est bien dans l'univers sud-ouest, mais c'est délié. C'est délié. Et bon, sur la cuisson des viandes, je n'ai rien à dire. Quoi. Tout est impeccable. Et je crois que je vais avoir la bouche pleine pendant toute l'émission.
Eh bien, c'est le cassoulet de David Radjeber, le chef de l'assiette, rue du Château, Paris 14e, aux trois viandes, poitrine de cochon, épaule d'agneau, magret de canard, il y a même de la saucisse au couteau.
Oui, on peut pas insister.
Et Elvira Masson, curry de volaille coco de Jérémy Ignacio. C'est une très belle histoire que je vous raconte. Il était une fois trois chefs passionnés, Jérémy, Thomas et Christophe, formés à l'école Ferrandi à Paris et dans des maisons étoilées. Ils décident de monter en 1995 les Tocs, un traiteur qui a connu d'ailleurs un succès croissant et qui s'est occupé pendant longtemps de beaux événements parisiens. Avec le premier confinement, patatras, l'activité de traiteur a été totalement dévastée. Et plutôt que mourir, le trio a décidé, en mode survie, de se réinventer. Ils ont monté en 2021 une activité parallèle baptisée Boco de Chef. Voilà, tout est dit dans le nom de cette nouvelle marque. Des recettes de plats complets cuisinés par les chefs de la maison. Il y a Romain Caceres, mais il y a aussi des chefs amis que je vous ai cités. Résultat, c'est Boco, mitonné quand même avec beaucoup de sérieux. Des produits de saison, tous issus de circuits courts, évidemment stérilisés dans des grands bocaux en verre, sans aucun additif ni conservateur. Donc avouez que ça change un peu quand même des bocaux, des conserves un peu tristounettes.
Bocaux au top, ouais.
Plutôt bien pensé. Boco de Chef à retrouver dans de nombreuses épiceries et commerces de proximité, dont la grande épicerie de Paris, à la Maison Malval à Lyon. On peut les trouver aussi en ligne, évidemment. Sur notre site, on a indiqué toutes les informations, franceinter.fr, à la page on va déguster dans un instant. Des coups de cœur à boire et à manger, des lectures, des événements gastronomiques et culturels. On en parle après une belle salade de fruits cuisinée par Bourvil. Cette salade de fruits date de 1959, une chanson qui n'a pas vraiment été cuisinée, vous allez le voir, à la sauce wok. C'est un choix de notre fidèle programmateur musical, Djoubaka.
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.
En ce dimanche 26 décembre, notre réalisatrice Lorraine Thomas nous a concocté un petit cocktail spécial 2021. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année écoulée est un millésime contrasté dans le paysage gastronomique, voire légèrement pourri.
Michèle Lorrain, sa mère était couturière et par la force des choses, elle était tellement cordon bleu qu'elle est devenue cuisinière professionnelle. Et c'est peut-être d'elle qu'il a hérité ce plaisir de se retrouver au fourneau.
Un petit peu de beurre encore. Hein.
Il fera de la Côte Saint-Jacques une institution. Chez les Lorrain, la cuisine est d'abord une histoire de famille.
Dès le 19 mai, les clients des terrasses, de restaurants, seront de retour, mais maximum 6 à table.
C'est lui qui incarnait le chabichou, Michel Rochedy, le pionnier de la gastronomie dans les stations de ski.
Et pour reprendre un mot de Jean Dormesson, qui était un client du chabichou, j'ose pas dire ami, mais la vie fut belle.
Les bars et restaurants rouvriront en intérieur à partir du 9 juin également, date à laquelle le couvre-feu passera par ailleurs de 21h à 23h.
Moi, la grosse contrainte, c'était d'être enfermé pendant un an et demi ou un an, je ne sais plus. Hein. Ça, c'était une contrainte.
Effet passe ou pas, les restaurateurs ont perdu un tiers de leurs clients.
Dans ce hangar détenu par une entreprise de livraison à domicile, 8 restaurants cohabitent.
Vous avez ici deux burgers très connus. Un peu plus loin, si vous me suivez, vous avez une marque de poké et au fond de la cuisine asiatique.
Chacun a sa cuisine, son espace de stockage pour les produits et c'est tout. Et là, c'est ça le principe d'une dark kitchen. Pas de service à table, leur seule préoccupation, préparer des plats.
Au chapitre des personnalités qui vont manquer à la gastronomie française, on salue évidemment la mémoire de Michèle Lorrain,
l'ancien chef 3 étoiles de la Côte Saint-Jacques, à Joigny, on est dans le département de l'Yonne, décédé le 22 juillet dernier à l'âge de 87 ans. Ce grand chef de Bourgogne avait quelques plats signatures à son actif. Je vous rafraîchis un peu la mémoire, les amis. La poularde de Bresse à la vapeur de champagne, le boudin noir maison et sa splendide purée mousseline à l'ancienne, ou encore le millefeuille aux trois crèmes légères, des prouesses créatives et en même temps assez classiques, qui figurent encore à la carte de la Côte Saint-Jacques, tenue par son fils Jean-Michel. Et puis plus récemment, le 14 novembre dernier, on apprenait aussi, avec tristesse, je me tourne vers Déborah Dupont, car il est aussi question de livres pour la suite, la disparition à l'âge de 85 ans de Michel Rochedy, celui qui fut le chef du Chabichou à Courchevel pendant 55 ans. Il avait pris sa retraite en 2018, et il avait d'ailleurs passé le relais
à Stéphane Buron,
qui vient de publier un livre de cuisine.
Oui, un nouveau livre chez Glénat.
Sur le répertoire du Chabichou, ce restaurant mythique de Courchevel en Savoie. On le surnommait, Michel Rochedy, le Bocuse des Alpes. Il avait quand même été l'un des premiers à porter la gastronomie vers les sommets et les pistes de ski. Et nos restos, alors, en 2021, bien le moral de nos restaurateurs est à nouveau en berne, avec les mauvaises nouvelles sur le front sanitaire, qui provoquent déjà beaucoup d'annulations sur les carnets de réservation, de lourdes incertitudes sur notamment le 31 janvier, les fêtes de fin d'année. Et dans ce contexte d'incertitude qui pèse depuis quand même le printemps 2020, est apparu, vous l'avez entendu, le phénomène des dark kitchen. Ça y est, j'ai lâché cet anglicisme qui s'est invité dans notre actualité gastronomique pour désigner ces restaurants fantômes, des restaurants virtuels, sans serveur ni table dressée, entièrement digitalisés et qui ne travaillent qu'avec les plateformes de livraison à domicile. Ils ont en quelque sorte profité, avec des guillemets, de la pandémie pour contourner les mesures de restriction administrative s'appliquant aux restaurants matériels, les restaurants en dur, qui permettaient évidemment aussi la vente à emporter. Est-ce que pour vous, en un mot, les dark kitchens, c'est la face sombre de la restauration post-Covid, Elvira?
Dark, ça veut dire triste et sombre et obscur aussi en anglais, c'est vraiment ça. C'est triste pour une grande ville, ça rend...
Mais après tout, est-ce qu'on n'aurait pas le droit de faire du business? Enfin, je me fais l'avocat du diable, mais...
Ah si, on peut faire du business, mais à quel prix? Avec quel coût social? Avec quel coût culinaire, avec quel coût aussi pour
c'est
le paysage
de la cuisine c'est... ouverte quand même. C'est quelque chose de caché, de dissimulé à l'œil.
Je vous livre ceci que j'ai lu sur Internet à propos de ça. La densité de la zone de chalandise au sein d'un isochrone de livraison est le facteur de la réussite. Voilà ce que c'est la définition. Voilà.
On est dans une stratégie marketing. Là.
Complètement. Et après, ils disent quand même, ce qui est embêtant, c'est que tous les produits ne se transportent pas, ils ne se cuisinent pas. Donc, on livrera des choses, pas tout, évidemment.
Manque de transparence aussi, peut-être.
Évidemment. Et dernière chose, les dark kitchens vous permettent de gérer plus facilement votre personnel en fonction de la demande client et de
l'optimiser. C'est le coût social qui est dramatique.
L'ubérisation est en route, tout va bien.
Ouais. Et oui. Et il y a aussi, évidemment, le statut social des livreurs, Déborah Dupont.
Une méconnaissance pour les clients, en fait, qui imaginent que c'est cuisiné dans un restaurant. Or, on est plutôt sur une optique de cuisine centrale, à la rigueur. On peut imaginer même un même lieu qui propose des menus de restaurants, et je mets des guillemets différents, sauf que c'est cuisiné au même endroit par les mêmes personnes, sous diverses enseignes.
Mais si on enlève le volet social qu'a souligné Laurent, parce que c'est gênant.
Moi, la voisine de table ou le voisin de table qui disparaît totalement, ça me plaît pas.
Alors, le lien social, et puis par ailleurs, culinairement dans l'assiette, c'est comment? Après, vous avez goûté?
J'en ai pratiqué quelques-uns, justement, un peu par conscience professionnelle. Bravo. Parfois, je vous avouerai que je n'ai pas strictement mal mangé, mais on décèle globalement un certain manque de sincérité. On va dire que dans ces dark kitchens, on est un peu moins passionné par le terroir que par le terroir-caisse. Et on préfère encore un chef l'établi qui fait des plats à emporter. Donc, dark kitchen, on mange pas de ce pain-là?
Ah non.
Cela dit, venez en province, dans les territoires, en région. Nous, on est à l'abri de tout ça. Je vous cache pas que c'est, je pense que c'est quand même un phénomène avec une coloration urbaine.
Alors, il a d'abord été très parisien et il a quand même fait des petits dans toutes les grandes villes de France. Dominique Hutin, vous avez la parole, vous la gardez. Le millésime 2021 en matière de vin, je crains que l'on continue un peu dans la sinistrose.
Oui, c'est bien résumé. Un bilan assez morne, avec 2021. Qui va rester malheureusement dans les mémoires comme étant un millésime teinté de rudesse, un peu comme si les 10 plaies d'Égypte étaient abattues sur le vignoble, mais alors toute la même année, tout en même temps, des pluies torrentielles qui ont dévasté les vignes, de la sécheresse, des épisodes de grêle qui sont venus là pour le coup littéralement hacher les vignes, qui les ont empêchées de produire, du gel, ça c'est un phénomène qui est tristement connu, qui est identifié, et qui vient griller les bourgeons printaniers qui évidemment ne donneront pas de raisins. Et puis la petite nouveauté 2021, comme s'il y avait besoin, ça nous est rapporté par le magazine Vitisphère, c'est inédit, on a observé les jeunes vignes qui ont été éclatées par le gel. Les pieds ont explosé. Ça veut dire qu'on avait planté ces choses-là il y a 3-4 ans, patiemment, on les a entretenues. Et puis ben non, il va falloir les arracher, il va falloir repartir de zéro, ce qui a un coût considérable pour le vigneron. Et ce qui induit aussi un autre facteur qui lui est moins quantifiable, c'est le découragement, tout simplement. Et alors certes, ces intempéries, elles font partie du quotidien du vigneron qui sait qu'il a un métier météo dépendant, mais là où on considérait que d'ordinaire, allez hop, on lâchait tous les 5 ans l'équivalent d'une récolte, eh bien maintenant, c'est sur 5 ans, on peut avoir 3 à 4 récoltes qui sont impacté. Et puis, il y avait évidemment un autre ricochet, un autre élément du vignoble qui est durement impacté, qui est peut-être la somme de tout ce qu'on vient d'énumérer de manière un petit peu morne, c'est le tissu humain. Et nombre de vignerons ont mis fin à leur jour ces derniers temps. Et alors, évidemment, on a une pensée pour ces familles, parce qu'on les journalistes, nous, on les connaît, ces gens, on va les visiter. Et puis, je vais citer ceux qui sont les plus en vue, les autres m'excuseront, c'est Pascal Clairet dans le Jura, Laurent Vaillé avec la mythique Grange des Pères dans le Languedoc, oui. Olivier Lemasson et ses 20 comtés dans la Loire, Dominique Belluard en Savoie. Et le choc est d'autant plus rude qu'il
incroyable
s'agissait
série,
là
de, oui, série
des talents purs. Et surtout, c'était des tempéraments forts, des gens qui incarnaient vraiment l'idée du rock, une forme d'excellence, et qui sont donc trouvés comme fragilisés ces derniers millésimes. Et puis je crois aussi, avec la perspective des millésimes à venir, qui était un peu compliquée, on peut parler aussi du désordre climatique, ce qui nous amène à parler du vin. Peut-être en abandonnant l'expression du sang du Christ pour celle malheureusement un peu plus contemporaine du sang de la vigne.
Oui, du sang de la vigne. Mais, chers auditeurs, surtout ne changez pas de radio, n'éteignez pas votre poste. On a quand même de bonnes nouvelles à vous annoncer, de bonnes ondes à vous transmettre. Et ben, justement, Dominique se rattrape avec une excellente adresse. On évoquait les dark kitchens qui assombrissent un peu le tableau de la gastronomie. Il existe encore, évidemment, de bonnes adresses rayonnantes, de vraies adresses en briques et mortier qui ont pignon sur rue. Et on va dans la Drôme avec vous, cher Dominique.
Ouais. C'est Vigne Authentique, on est dans la Drôme, c'est pas forcément le premier coin qu'on imagine pour parler de cidre. Parce que c'est une nouvelle vague qui s'installe. Ah oui, tout le monde se moque de moi, voilà, c'est parti. Non, je ne ferai aucune rime avec Normandie et Bretagne, ça c'est vraiment un phénomène nouveau. D'ordinaire, vous alliez chez un caviste, il entretenait une cuvée qui prenait la poussière pendant 11 mois et demi en attendant le rituel, l'achat un peu obligé de la galette des rois, de la chandeleur. Là aujourd'hui, les cavistes entretiennent des castings de 2, 3, 4, 5, 10 cuvées différentes et donc jusque dans la Drôme. Et en fait, c'est lié à l'effervescence qui traverse un peu la planète cidre. Il y a la créativité, il y a aussi le fait que on parle là de produits d'extraction naturelle et qui conduit à considérer le cidre, qui est quand même une boisson ancestrale, comme une valeur d'étonnement. Et donc, c'est un fait nouveau. Donc, vous trouverez sur notre site 5 autres adresses. Bon, à Rouen, à Caen, certes, c'est la Normandie, mais aussi à Aix-en-Provence, à Paris et même Amsterdam. Vous voyez, François-Régis,
ouais.
Vous qui êtes un touriste assidu, voilà une nouvelle raison. Pour des raisons qui vous regardent, ça me fait du joint. Vous continuerez de trouver votre bonheur à Amsterdam.
Vigne Authentique dans la Drôme. Ils se disent dénicheurs de bouteilles. Ils dressent le verre et le couvert d'ailleurs. Hein. Et ils semblent très amateurs de cidre, comme quoi le prosélytisme de Dominique Hutin en faveur de la cédriculture porte ses fruits. C'est bien.
On s'y emploie.
On descend un peu au sud. On bascule légèrement vers l'ouest avec vous, cher Laurent, pour une virée camarguaise.
Oui, je vous emmène chez Bob. Alors oui, chez Bob. C'est, en fait, il s'appelle Jean-Guy, hein, c'est normal, c'est chez Bob. c'est l'ancien patron qui s'appelait chez Bob, c'est à garder. Je vous donne l'adresse intégrale parce que ça vaut le coup. Mas Antonel, j'ai bien dit Mas et pas Ma. Hein. Route du Sambuc, Villeneuve-Gageron.
Et on
arrive à Arles. Voilà, donc c'est à Arles, mais pour y arriver, c'est très très loin, très 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 loin du centre d'Arles. Mettez plutôt le GPS, réservez bien avant et vous allez tomber sur une adresse de charme incroyable parce que vous avez sur table déjà à votre arrivée les entrées, l'anchoyade avec les petits légumes du jardin, les œufs durs, les charcuteries et la poutargue avec les petits les petits morceaux de pain grillés, un peu de beurre, une poutargue. Bon, déjà c'est le bonheur absolu. Et puis Bob vous fera ou Jean-Guy vous fera griller une côte de taureau, un confit de canard ou bien un quasi d'agneau au gingembre. C'est un endroit formidable. C'est un tempérament extraordinaire. Le soir, il lui arrive de prendre la guitare et de commencer à jouer. Il y a des affiches partout dans tout le restaurant. Il y a un grand feu de cheminée. C'est magnifique et on y mange. Très très bien, en plus ce qui ne gâte évidemment à rien.
Vous êtes en train de nous dire que vous avez déjà fréquenté chez Bob, chère Elvira?
J'aime beaucoup Bob Jean-Guy.
Oui,
j'aime beaucoup les concerts de musique gitane, absolument. J'aime beaucoup ce coin, j'aime beaucoup cette route de Camargue, j'adore cet endroit.
Et c'est ouvert pendant les fêtes?
Ah oui, bien sûr, oui, c'est ouvert pendant les fêtes. Et puis après, on peut aller dormir au Masque à Charelles, au Sainte-Marie de la Mer. Là, c'est aussi une adresse formidable pour terminer la nuit.
Et vous n'avez encore pas pris l'initiative, Laurent Delmas, d'emmener toute l'équipe dont on va déguster chez Bob?
C'est quand vous voulez.
Bon, une bonne sortie scolaire.
Voilà, une bonne sortie scolaire. Ou on peut hésiter avec l'adresse dont va nous parler Déborah, puisque vous allez, chère Déborah, sur les terres normandes de Dominique pour nous donner des nouvelles d'une auberge, on peut appeler ça comme ça, ou d'une néo-auberge dont vous nous aviez annoncé à ce micro l'ouverture.
L'année dernière, effectivement, je vous avais parlé de l'auberge sauvage qui s'apprêtait à ouvrir, donc qui a été retardée par le confinement. Et j'étais dans la région en fait au mois de juillet. J'y suis passée avec mes enfants. Donc l'auberge sauvage de Thomas Benadi et Jessica Shane, qui est à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel, à Cervon. Mm-hmm. Donc,
Là aussi, mettez le GPS.
Oui, mettez le GPS, sauf que dans le village, il n'y a plus, de toute façon.
Ça ne passe pas.
Donc, voilà. Mais on trouve très bien des matériaux bruts en salle. Donc, c'est de la pierre, c'est du bois. C'est brut aussi dans l'assiette, avec les coquillages de la baie du Mont-Saint-Michel, avec des jolies viandes, des jolies volailles. J'ai mangé une caille cet été, qui était absolument à tomber. Et les légumes du potager, puisqu'ils ont installé un super potager à l'arrière de la maison. Et je garde un souvenir ému d'une tartelette à la mauve, yaourt maison moutarde et jaune d'œuf confit, qui visuellement parlant est absolument sublime et qui, je pense, est vraiment devenue leur plat signature.
L'auberge sauvage de Thomas Benadi et Jessica Shane, c'est ça ?
Tout à fait.
Et on se souvient du début de carrière de Thomas Benadi sur les chapeaux de roue, c'était rue Rodier, Paris 9e, au restaurant Horty.
Et même avant, la machine à coudre à Boulogne.
Et c'est vrai, absolument, vous avez raison. Mais moi, je l'ai vraiment connu à l'époque du quartier Notre-Dame-de-Lorette et de son restaurant Horty, où il pratiquait déjà une très belle cuisine.
Végétale,
sauvage, saisonnière, c'était vraiment une cuisine champêtre au cœur de la ville. Très bonne nouvelle au rayon des livres de gastronomie, chère Elvira, la réédition d'un texte qui vous est cher.
On m'appelle MFK Fisher depuis que j'ai publié mon premier texte chez un éditeur anglais. À l'époque, je vivais en France, je m'étais rendue à Londres pour l'occasion. Je devais avoir belle allure, j'étais jeune, je m'étais acheté un tout nouveau chapeau et tout le tralala. Je me revois entrer dans le bureau et constater l'air de dégoût des deux hommes, mes éditeurs, qui se trouvaient là. Je n'étais pas trop habituée à susciter ce genre de réaction, alors j'ai essayé de comprendre pourquoi ils avaient l'air tellement choqués. En fait, ils s'attendaient à ce que je sois un homme, un genre de dandy fin et élégant, tout droit sorti d'Oxford. Du coup, ils m'ont proposé de garder mes initiales, M.F.K. Fisher, sous prétexte que les femmes n'écrivaient pas sur la cuisine comme moi et qu'ils ne voulaient pas perturber leurs lecteurs. Ce texte, signé donc M.F.K. Fisher, figure dans la réédition. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est que le texte est réédité. De la biographie sentimentale de l'huître, un livre culte outre-Atlantique qui date de 1941, dont je vous ai déjà parlé, signé de cette grande, peut-être la première food writer, écrivaine culinaire américaine,
absolument,
dont ceci est le livre le plus célèbre. C'est une nouvelle édition, c'est pas une nouvelle traduction, qui paraît chez Dalva. Le texte est donc toujours le même. C'est un délice de sensualité, d'humour, d'esprit. Un hommage à l'huître. Il est magnifiquement illustré par Jeanne de Talente.
Il est beau ce petit livre avec un dos entoilé.
Le travail de Jeanne de Talente est à la fois puissant et gracieux. Et un grand coup de chapeau à Dalva, la toute jeune maison d'édition, qui est née au printemps dernier, qui se consacre aux voix littéraires françaises et étrangères, contemporaines ou pas, la preuve avec MFK Fisher. Donc un grand bravo à sa fondatrice, qu'il en faut du courage, Déborah, non, pour fonder une maison d'édition actuellement.
Oui,
une librairie ou une maison d'édition, oui, ou de la conscience.
On a en fait des belles maisons d'édition là qui se montent. Ensuite, il va falloir voir effectivement dans le temps si elles arrivent à tenir.
Exactement. Et à trouver du papier, parce que la pénurie de papier, ça devient le gros problème des éditeurs.
Exactement.
Et Déborah lève les yeux au ciel.
La fin d'année aura été très compliquée de ce point de vue-là.
Bravo à Juliette Ponce, l'éditrice, et bravo pour toutes les éditions qu'elle nous promet de tous les livres de MFK Fisher, dont certains, la plupart, n'ont pas été traduits en français jusqu'alors. Ça me met en joie.
La biographie sentimentale de l'huître, on est presque dans un traité d'anthropologie culinaire.
Oui,
il y a à la fois des leçons de biologie marine, des recettes, des souvenirs de dégustation, des petits trucs, des tours de main. C'est vraiment formidable. Moi, c'est livres que j'ai bien au chaud dans ma bibliothèque, mais pas dans cette édition d'Alva.
Noël est passé, mais c'est quand même pour vous.
Alors ça me fait vraiment très plaisir. Vous avez d'ailleurs une manière bien à vous d'accommoder les huîtres, chère Elvira.
Ah, on revient là-dessus.
Avec un fruit de saison.
Je mets un petit peu de kiwi. Voilà, tout à fait de saison, un petit peu d'avocat, un petit peu d'échalote, citron vert, et les détracteurs sont nombreux parce que certains ne jurent que par les huîtres totalement nature. Moi aussi, a priori.
Non, mais ça peut être une grille d'entrée pour les gens qui n'aiment
pas les huîtres. C'est une grille
d'entrée, puis
de temps à autre, c'est amusant pour les fêtes, ça change, et franchement, ça fonctionne.
Bien.
Ça ne tue pas le goût de l'huître, au contraire, ça le décuple.
Moi, j'ajoute même à ce petit trio kiwi, avocat, échalote, un peu de piment, et franchement, c'est formidable. Mmh. Quelques feuilles de coriandre. Et notre huître est totalement rhabillée, où on peut se contenter évidemment du simple petit trait de jus de citron, ça c'est possible aussi. Tiens, on est au rayon des agrumes, on y reste, mais en version sucrée, avec Déborah Dupont.
France Inter. On va déguster.
Une très belle part de gâteau circule.
Ça a l'air bon, ça.
Il y a un parfum d'orange.
Il y a effectivement un parfum d'orange. J'ai décidé de concurrencer le fameux gâteau d'Elvira.
Oui. Oh là là, il a de la texture.
Il a de la texture, il a une humidité.
Plus que moelleux, il est mouillé, quoi. Il est...
Oui. Et plus zeste, non, il y a des beaux amers.
Alors, on est au-delà du zeste, en fait.
On est au-delà du zeste.
Il y a tout.
Voilà, il faut inventer des mots.
Exactement.
Formidable. Là, j'achète tout de suite.
C'est en fait, vous faites tout simplement cuire les agrumes dans l'eau et ensuite vous les mixez entièrement. Donc, agrumes bio, bien évidemment.
Tout y passe.
Tout y passe. Comme la recette de Claudia Roden.
Et là, en fait, c'est la recette de Alice Roca.
Mais c'est ce qui donne cette complexité extraordinaire, ce mélange d'acidité, d'huiles essentielles, d'amertume. Fabuleux.
Donc, Alice Roca, à la base, c'est une styliste de mode qui a quitté Paris il y a quelques années pour s'installer en Normandie.
Encore, mais.
Oui, mais alors la Normandie,
calmez-vous.
Là, on est dans l'heure. Le hasard a fait que nous avons fait le trajet ensemble pour aller à Périgueux. On a discuté donc pendant les quelques heures de train et on s'est rendu compte qu'elle habitait à 10 km de chez mon papa. Donc je connaissais très bien l'endroit. Et son livre est absolument merveilleux parce qu'il y a à la fois un côté rustique, c'est-à-dire on va avoir de la quiche, on va avoir de la soupe paysanne, des choses comme ça. Et en même temps, ça a un côté délicieusement, je caricature, bobo parisien. Mmh. Avec des recettes parfois justement très végétales, des pétales de fleurs, des pains colorés, des choses comme ça. Je trouve ça absolument génial.
Et qui l'orne quand même du côté du répertoire anglo-saxon justement.
Exactement.
Avec beaucoup de baking, etc.
Et avec aussi un livre, l'objet là j'entends.
L'objet est très beau. Hein.
Qui est très beau. C'est, on est sur un format presque carré, assez épais, toilé. La couverture est imprimée, la photo est imprimée en couverture. Donc on a vraiment quelque chose d'assez étonnant. Donc pour ce gâteau vraiment très simple... Deux oranges et un citron ou trois grosses clémentines. Donc là, j'ai mélangé effectivement orange et citron. Qu'on va faire cuire 1h30 dans de l'eau bouillante, dans une casserole.
Point barre.
Point barre. Ensuite, on égoutte, on mixe. Donc on retire les pépins avant, s'il y en a, moi j'en avais pas. On mixe. On garde cette pâte qu'on peut préparer jusqu'à 3 jours à l'avance. Et l'appareil à gâteau, c'est 6 œufs battus avec 170 g de sucre de canne complet. On rajoute 250 g de poudre d'amande. 2 cuillères à café de poudre à lever. Mmh. 1/2 cuillère à café de sel fin. On mélange avec la purée d'agrumes, c'est parti. Et dessus, il y a un petit streusel.
Un petit crumble. Qui compense la légère amertume du gâteau, c'est parfaitement équilibré.
Complètement,
quoi.
Donc qui lui est fait avec de la farine, des flocons d'avoine, du sucre, du beurre et un petit peu de noisette.
Voilà. Une des vertus de l'amertume, c'est qu'on l'oublie souvent, l'amertume rafraîchit. Oui. Ça adoucit les sucres, ça équilibre un petit peu.
C'est pour ça qu'on est sur un parfait dessert de fin de repas de fête.
Ah oui. Voilà. Prodigieux.
Et qui se fait vraiment en 10 minutes. C'est une rapidité.
Alice in food, à ma table. Non, ça fait vraiment envie. Chez First Edition, on peut saluer d'ailleurs les efforts de cette maison d'édition qui entame une mue à la fois éditoriale et iconographique, visuelle, tout à fait incroyable avec des très très beaux livres. Et je ne dis pas ça seulement parce que c'est l'éditeur de Déborah Dupont qui a déjà publié Les Boulettes,
Les Cookies,
les cookies et Les Brioches. Plus récemment, dont on avait parlé justement à Périgueux quelques semaines.
Pardon, juste dans l'esprit du service public, si vous avez relevé tout à l'heure délicieusement bobo, délicieusement parisien, vous pouvez signifier votre sentiment à Déborah@jeanmerdelaprovince.com.
Non mais.
Grande forme, Dominique.
On va se faire encore plein de copains et ce gâteau est résolument épatant.
Merveilleux.
Je pense qu'il est adopté. Incroyable. Dans un instant, Laurent Delmas fait son cinéma avec une sélection de films, une petite série aussi, très portée sur la chose culinaire.
Yeah.
Courtney Barnett avec Ray Street. Pour donner le sourire à Elvira Masson, vous aimez
j'adore.
Ça? Bon, on recuisine 2021 pour mieux se chauffer l'estomac en 2022. C'est le bilan gourmand dont va déguster.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
Et Laurent Delmas a dégusté, mais de la pellicule, spécialement pour nous. On ne compte plus les films et les séries, d'ailleurs, cher Laurent, qui nous prennent par les sentiments et par l'estomac.
Oui, paradoxalement, moins de monde dans les salles de cinéma, hélas, en 2021, mais pas moins de scènes autour de la cuisine et de la gourmandise, heureusement. On a même raconté la naissance des restaurants au XVIIIe siècle dans le film délicieux d'Éric Bénard. Et au fond, peu importe si la vérité historique y est quelque peu malmenée.
Du beurre, voyons, du beurre. Faut faire bien, faire grand, faire savoureux.
Si vous avez deux minutes, le duc aimerait faire son commentaire.
Manseron, vos cuissons étaient parfaites.
Comment appelez-vous ces petits chaussons?
Le délicieux.
Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons.
D'un film à l'autre, il fut également beaucoup question de truffes, justement dans Pig de l'américain Michael Sarnansky, puisqu'on y voyait un Nicolas Cage transformé en cuistot des bois trufficulteur et s'opposant à la cuisine moléculaire dans un combat terminé depuis belle lurette par le chaos d'une cuisine gonflée mais gonflante aussi. Comme quoi le cinéma peut avoir un train de retard. Ce qui n'est pas vraiment le cas d'un film français sorti le 8 décembre dernier, Une femme du monde, premier film réalisé par Cécile Ducrot, qui met en scène une mère de famille et prostituée l'impeccable Laure Calamy, prête à tout pour que son fiston intègre une prestigieuse et donc très onéreuse école de cuisine nommée Perrandier. Toute ressemblance avec une école bien réelle dont le nom commence par un F et finit par un I serait évidemment le fruit d'une hallucination collective. Histoire d'autant plus touchante et juste que le jeune homme en question s'avère tout à la fois doué et réticent.
Un jour j'ai trouvé un livre de cuisine et je sais pas pourquoi mais... j'avais envie de regarder dedans. Et j'adorais. J'adorais regarder les photos. Et lire les recettes. Donc j'ai voulu essayer. J'ai fait une tarte aux pommes. Et j'ai réussi. Et j'étais content. Mais après j'ai touché à la poubelle parce que j'avais pas le droit de me servir du four.
Bah tu vois. C'est ça qu'il faut que tu dises.
Bon, ben, allez voir, s'il vous plaît, cette femme du monde.
Vous nous le recommandez.
Ouais, ouais, bah, absolument. On y parle joliment, ben, de l'envie de cuisine. Alors, autre belle surprise, le DVD de The Chef in the Truck, qui raconte les belles aventures culinaires du chef pâtissier du Ritz à Paris, François Perret, parti aux États-Unis pour participer à un concours de food truck. Ben, c'est bourré de scènes réjouissantes, comme cette rencontre entre un cookie de compétition et une madeleine de Proust.
Quand elle m'a fait goûter le cookie et le tremper dans le verre de lait, c'est quelque chose qui est international. Parce qu'en France, on trempe, par exemple, au Salon Proust. Je fais une petite madeleine et en fait, c'est le top départ de l'univers du Proust. Le client arrive, on amène une toute petite madeleine dans un bol. Et la salle vient verser un tout petit peu de lait sur le dessus, juste ce qu'il faut pour que la madeleine se gonfle, se gorge en fait de ce lait. Et l'idée, c'est de manger cette madeleine gorgée de lait et de replonger direct, en fait, quand on était petit et qu'on trempait notre madeleine dans le verre de lait. Donc, quand elle m'a fait tremper ce cookie dans le verre de lait, c'est vrai qu'on se dit, finalement, on est à 30 000 km de chez moi et elle trempe un cookie dans du lait, quoi.
On a suivi les pérégrinations du chef pâtissier du Ritz, François Perret. C'est vrai que le décalage culinaro-culturel aux États-Unis entre ce Frenchie et la nourriture américaine est très intéressant et très drôle.
Bien sûr, absolument. Bon alors, 2022 ne semble pas en reste côté cuisine et cinéma, je vous l'annonce, avec deux exemples. Le 19 janvier prochain, le talentueux boucher parisien Hugo Desnoyers, tenez-vous bien, verra ainsi sa vie amoureuse et professionnelle, revisitée et transformée en fiction dans... Tendre et saignant, le nouveau film de Christopher Thompson.
Oui.
Avec de ci, de là, quelques scènes bien senties et réalistes, menées notamment par une Géraldine Pellas, formidable dans le rôle d'une journaliste de mode qui se transforme en bouchère de chic et de choc, bien décidée à promouvoir la viande de qualité.
Vous savez combien j'ai d'abonnés là-dessus? Un clic, t'es mort. Alors soit vous honorez vos engagements, soit je poste une photo d'un de vos chapeaux prétentieux, là, en disant qu'ils n'ont pas plus de goût ou de justosité qu'une vieille poule à sous vide vendue 75 euros moins cher.
Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, moi, j'ai pas le choix. Hein. J'ai réussi à les caser à droite, à gauche. Des gens sérieux.
Est-ce que j'ai pas l'air sérieuse, moi? Ok, on les prend toutes.
Charlie.
On les prend toutes. La boucherie Fleury ne plante pas ses clients avant Noël.
Les dialogues ont l'air aux petits oignons, Laurent.
Oui, absolument. Oui, mais vraiment, surtout quand il s'agit comme ça de effectivement de parler de la boucherie et de il y a des morceaux tendres et saignants comme le titre l'indique le film. Et enfin, ce même jour, 19 janvier, ouais. Figurez-vous que le cinéma britannique fera très fort avec The Chef, en français, In French, c'est le titre toujours.
Éloge de la cuisine britannique, alors.
De Philippe Barentini, ne riez pas. Soit un plan séquence de 94 minutes chrono. Les spécialistes apprécieront, hein. C'est-à-dire, c'est un film en continu pendant 94 minutes qui nous fait partager le quotidien du chef d'un restaurant londonien. C'est bien plus fort que Cauchemar en cuisine. C'est d'un réalisme absolu et d'une virtuosité démoniaque.
Carrément.
Ah oui. Oui, vraiment. C'est-à-dire que première minute, il entre dans son restaurant et c'est tout ce qui va lui tomber dessus pendant une heure trente, entre des choses bien et des choses moins bien. Mais c'est franchement extrêmement bien incarné. Il y a une pléiade d'acteurs, comme tous les acteurs britanniques, sont formidables. Et franchement, je vous le recommande, mais très très vivement.
The Chef de ouais. Philippe Barentini, recommandé par Laurent Delmas à tous les auditeurs dont on va déguster.
Très envie de voir ça.
Donc avec un vrai réalisme.
Ah, mais total. C'est-à-dire la salle.
On présentait la cuisine.
Oui, et on est en permanence, évidemment, entre la salle et la cuisine.
J'ai hâte de découvrir ça et je pense que je ne suis pas seul, et ben pour célébrer le succès futur peut-être de ce film The Chef, et puis surtout pour se faire du bien, on trinque avec Dominique Hutin au champagne.
On va déguster sur France Inter.
Le symbole sonore de l'année qui s'effiloche.
C'est du vrai pop, Antoine Decaune va être jaloux.
Voilà, on y est. Champagne.
Oui.
Champagne, je vous emmène en Champagne. Alors évidemment, vous pourriez m'opposer que cette saison, bon oui, c'est vrai. Mais on va porter un éclairage avec une nouvelle cartographie de ce vignoble emblématique. Alors quand je parle de nouvelle cartographie, elle est matérialisée par notre carnet de vignes qui est en ligne. 60 nouvelles cuvées, des nouveaux millésimes, des créations pures, des choses que vous ne connaissez pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ne seront, pour certaines, commercialisées qu'en 2022. Donc, c'est une première mondiale, n'ayons pas peur des mots. Et cette nouvelle cartographie, elle se jauge moins en géographie, parce que l'aire de production, elle est délimitée. Elle se jauge moins en cartographie qu'en considération environnementale. Vous allez voir que, on trouve pas mal de vignerons qui sont engagés en Champagne en bio, et c'est à souligner parce que c'est une région qui entretient des relations parfois un petit peu conflictuelles avec la météo, pour dire les choses de manière diplomatique. Voilà. C'est aussi une nouvelle cartographie en registre de goût. Vous avez trouvé beaucoup de cuvées qui sont des extra-bruts, c'est-à-dire des vins non dosés qu'on n'a pas accompagnés, sans aucune cosmétique, qui sont au plus près de l'état d'une expression directe du vin, au final. Une nouvelle cartographie aussi en univers graphique. Et ça, c'est intéressant.
Vous voyez, je vois ça et je découvre vos étiquettes. On est très, très loin de ces étiquettes un peu classiques et, on va dire, légèrement poussiéreuses. Les maisons de champagne, en poulet.
Le fil rouge, on le connaît, c'est le doré. Donc, moins de cuvées prestige, moins de cuvées tradition, moins de cuvées quintessence, moins de doré sur les étiquettes. Un imaginaire, soyons fous, poétique, décalé, etc. Donc, et puis aussi, c'est une nouvelle cartographie en termes d'acteurs et d'actrices, avec le renouvellement des générations qui joue à plein, qui apporte des idées nouvelles, avec notamment des vinifications plus naturelles, même parfois plus créatives, un peu à l'image de ce qu'on trouve dans les vins tranquilles, c'est-à-dire des vins qui vont être élevés en jarre ou en solera, c'est-à-dire qu'on va entretenir sur plusieurs années une espèce de frishti où on va incorporer les vins l'année qui arrive, etc. Ce qu'on appelle donc ces fameuses réserves perpétuelles. Bref, une nouvelle garde, une jeune garde avec des nouvelles approches. Et tout ça, ça va déteindre forcément sur le style des vins et ça va élargir l'horizon champenois pour boire et découvrir des vins qui sont éminemment plus libres. Ça invite forcément à donner quelques noms au-delà des 60.
Avec plaisir, Dominique.
Vous allez trouver sur notre site. C'est Romain Hénin, par exemple, le gamin du terroir. Et alors, une confession, je le dis rarement, mais c'est une des rencontres les plus rafraîchissantes qu'il m'ait été donné de faire depuis ces derniers mois. Je l'ai chiné sur un salon qui s'appelle Brut à Mulhouse. Allez le voir, c'est magnifique garçon avec des billes à la place des yeux, rafraîchissant, formidable. Là, il nous offre, il est dans vos verres, un très 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 ciselé, très saillant, un champagne blanc de blanc, non dosé, donc extra brut.
Avec un nez formidable, je trouve,
une bouche d'expression. Et il se trouve que notre ami Romain Hénin est un grand fan de l'émission, donc je crois qu'on peut le saluer. Je sais qu'il est dans les starting blocks.
On va même trinquer à lui, tiens.
Trinquons.
On peut citer aussi Antoine Bouvet avec un extra brut. Lui aussi rend hommage à ses arrière-grands-parents, mais c'est la jeune garde qui parle. Et puis, une toute jeune maison, voilà, c'est son premier domaine, c'est Marie-Lorraine Lefébure, avec 3 cuvées. Et moi, je vous ai servi ce que vous avez adoré sur le dessert de Déborah tout à l'heure, avec des beaux amers, un pinot noir, donc très ample, très cuivré dans sa couleur.
Un petit peu vineux.
Exactement, on quitte les rives un peu de l'imaginaire champagne pour se rapprocher de celui du vin tranquille, avec des expressions plus larges, plus libres. Ben voilà, je vous invite simplement à télécharger ce carnet de dégustation. Et puis, il fallait quand même trouver une petite conclusion à cette chronique dont je m'y suis employé toute la nuit. Je me suis dit, mais quel sens on va donner à cette année? Alors, j'ai pris ce qui est le plus simple pour nous, c'est-à-dire « on va déguster ». Figurez-vous que l'anagramme de « on va déguster », c'est « ventre gouda ». Alors, figurez-vous que ça ne veut strictement rien dire.
On est d'accord.
Donc,
bon,
ça permet, un, de gagner du temps, et deux, de trouver une fin à cette chronique.
« Ventre gouda ». Vous avez passé combien de temps à... Vous avez un logiciel qui vous permet de faire des
beaucoup
anagrammes?
Beaucoup de travail, chef. Beaucoup de travail. Alors, j'avais aussi « vegan tordu », mais je me suis dit « là, on va prendre beaucoup trop de courriers, donc je ne l'assume pas ». Ma compagne est végétarienne, donc faites-vous plaisir.
Petit coup de cœur culture.
Oui, absolument, avec un nouveau projet éditorial en 2021 qui va être lancé par souscription. Ça s'appelle Vino Futur et ça associe d'inédit que c'est un support, un tout petit, une petite feuille de chou entièrement dédiée au vin du futur. Et donc ce magazine qui scrute le vignoble d'aujourd'hui pense celui de demain. Voilà, c'est une espèce de roman d'anticipation en mode journalistique. Et c'est porté par ma collègue qui s'appelle Julie Reux, une journaliste du vin qui vit au plus près du vignoble, à tel point qu'elle est conjointe de vigneron, donc elle sait de quoi elle parle. Voilà, souscription Mimosa, Vino Futur, le lien est sur notre site.
Un grand merci Dominique, on aime bien aussi ces projets rafraîchissants qui réveillent justement le milieu du vin. Un grand merci Dominique. On passe à Laurent Delmas, car oui, Laurent est critique cinéma, mais il est aussi... très bon cuisinier à ce... Bon, non, on va pas s'emballer. Bon non, cuisinier non, à 16h.
Non.
Surtout quand il est question de recettes maternelles, cher Laurent.
Mais oui, ma maman nous faisait des œufs en tripe ou à la tripe.
Alors,
on peut le dire les deux.
Œufs à la tripe, œufs en tripe, qui en a déjà entendu parler?
Absolument
pas. C'est un truc un peu spécial qui ne concerne que quelques régions.
D'une part, il faut le dire clairement, il n'y a pas l'ombre de gramme d'un début de tripe dans cette recette.
Ce qui va rassurer pas mal de nos auditeurs.
Des œufs, il y en a, mais pas de tripe. Alors pourquoi ça s'appelle à la tripe? Ben ça, alors là, les politologues s'intéressent toujours. On n'en sait rien. En fait, ça peut être en Anjou, ça peut être dans les Landes, ça peut être parisien aussi. Ça, j'ai souvent lu que ça pouvait être une.
En tout cas, c'est dégusté à Paris.
Et c'est dégusté à Paris. Mm-hmm. Et puis il y a évidemment la ville qui le revendique parce qu'elle revendique beaucoup
Lyon.
De choses. Lyon, bien entendu, les gueules de Lyon revendiquent les œufs à la tripe en disant mais si, c'est très simple. C'était les charcutiers lyonnais qui au Halles se faisaient ça le matin en mâchon et pour. Pourquoi? Alors on va y venir. Pourquoi est-ce que ça peut évoquer la tripe? Ben c'est parce qu'il y a dans cette recette des gros oignons qu'on émince très finement et qu'on fait revenir dans du beurre. Mais c'est vrai que mêlé après à une béchamel, parce que c'est ça le principe de la recette, ça va ressembler, ça peut ressembler à des morceaux tripiers.
Ça fait un peu des rubans ou des lamelles qui rappellent les tripes.
Exactement. Et à cette béchamel avec ces oignons, on va simplement ajouter, si je puis dire, des œufs durs. Qu'on va émincer avec les tranches d'oignons, et on va amalgamer tout ça, le faire un petit peu plus cuire, mais pas trop, le manger bien chaud. Moi, je le fais pas du tout passer au four et en gratin, ça peut se faire, mais je trouve que c'est pas la peine. Et il y a quelque chose qu'il faut impérativement mettre, comme disait Louis de Funès, Muscat Nuts, bien évidemment, de la noix de muscade en grande quantité.
C'est vrai, j'avais oublié.
Mais évidemment, il faut la mettre, il faut pas l'oublier. C'est un principe central de cette recette. C'est très très étonnant,
très bon.
C'est très délicieux, c'est très fondant. Et franchement,
c'est très absent de notre studio aussi.
Parce que ça se fait minute. Ça ne peut se faire. C'est pas du tout de la dark food. C'est vraiment pas du tout. C'est l'anti dark food. Voilà.
Pour se consoler, il y a la recette de Laurent Delmas sur franceinter.fr à la page On va déguster, ou pour être plus exact, la recette de votre maman.
Absolument, rendons-lui hommage.
Les œufs à la tripe, en voilà une très belle découverte, sans aucune espèce de transition, face à Elvira, qui a l'habitude de relayer souvent dans cette émission des projets ou des initiatives à vocation environnementale ou caritative. Quoi de neuf? Sur le front de la gastronomie écologique et solidaire, vous avez des infos à nous signaler, chère Elvira.
On est loin de la béchamel, là.
C'est sûr.
Je vous présente d'abord ce livre, ce sont 40 recettes.
Ah, il y a peu de béchamel dedans, je pense.
Ouais. Livrées par 40 cuisinières amateurs qui viennent du monde entier. Je dis 40 cuisinières, en fait, ce sont 39 cuisinières et un cuisinier. Du Mozambique, d'Afghanistan, d'Égypte, du Cap-Vert, de Cuba, du Pérou, de pratiquement 30 pays. Mmh. Ils sont bénéficiaires de l'association Handicap International. Et ces 40 recettes composent un livre
que je trouve absolument merveilleux, qui est publié pour les 40 ans de l'association. Et c'est un livre qui est orchestré par notre amie Sonia Esgulian, avec la complicité du chef Grégory Cuiron. Alors Sonia est entrée dans le quotidien de ces femmes et de cet homme qui cuisine au quotidien. Elle y est entrée par la vidéo. Elle ne s'est pas déplacée évidemment dans tous ces pays. Ils lui ont transmis leurs recettes, comme on les transmet à une amie. Et Sonia les a préparées en y mettant sa patte, en y mettant surtout beaucoup, beaucoup de cœur. Ce sont plus que 40 recettes, c'est 40 histoires que ce livre vraiment fort, joyeux, et je trouve très émouvant, nous raconte, avec des recettes que j'ai vraiment toutes intégralement envie de faire, à commencer par une recette archi simple, de pommes de terre népalaises aux épices.
Elle commence à avoir un sacré succès, celle-là. Oui.
Citron et piment, d'une jeune femme qui s'appelle Kabita, qui est donc au Népal. Et vous l'avez faite ?
Ouais, c'est prodigieux. Il y a ce côté aigre doux des bonbons qui piquent. Et c'est un assaisonnement, notamment ce petit citron un peu confit dans les sweet and sour. Voilà, le côté doux amer qui transforme totalement la pomme de terre.
Formidable. Et la force de Sonia, qui est une excellente cuisinière, mais qui a surtout envie de nous livrer un répertoire qui nous intimide pas, c'est d'avoir parfois un tout petit peu simplifié, sans s'approprier un répertoire. Elle simplifie, elle limite un petit peu les quantités d'ingrédients introuvables. Donc le livre est vraiment hyper accessible. C'est vraiment un très beau projet. Le livre est préfacé très joliment par Olivier Rollinger. Ces recettes partagées sont plus que des cadeaux, écrit-il. Elles sont le recueil des cuisines les plus pures, les plus fortes et pétries d'amour, comme une mosaïque de vie défiant les drames du monde. Elles nous touchent en plein cœur. Et Olivier Rollinger, justement, était l'invité du 20e épisode du podcast sur le grill décotable, que vous connaissez, je pense, qui compte désormais 70 épisodes et que l'on peut écouter et réécouter sur les plateformes d'écoute. Depuis 2 ans, il décrypte les enjeux sociétaux et environnementaux liés à l'alimentation. Dimanche 22 janvier, de 14h à 16h, le podcast prendra une forme un peu inédite. Il se transformera en masterclass, une masterclass en ligne, en vidéo, appelée « Changer la donne avec son assiette », qui est co-animée par la fondatrice d'Écotable, Fanny Giansetto, et encore une fois, notre amie Estherelle Payani, avec une thématique très simple. Par quel changement commencer quand on veut se tourner vers l'alimentation durable et qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre? C'est super accessible. Qu'est-ce qui a vraiment de l'impact? Alors, elles vont répondre à ces questions assez théoriques, mais elles vont aussi livrer plein de petites capsules vidéo avec des gestes pratiques, des gestes de cuisine pendant 2 heures qui s'annoncent a priori passionnantes. Alors, ça a un prix. 29 euros, cette masterclass. C'est aussi une manière de soutenir l'action d'Écotable dans le temps. Mais surtout, ce prix comprend des vidéos tutoriels qu'on embarque avec soi et un livret de recettes préparé par Estherelle qui sera envoyé à chacun et chacune des participants. Je vous ai mis le lien, évidemment, pour l'inscription. Changer la donne avec son assiette, le 22 janvier.
Très belle initiative d'Écotable. Ne manquez pas cette masterclass en ligne le 22 janvier, animée par Estherelle Payani, qui est souvent intervenue à ce micro. Le coup de cœur culture de Déborah Dupont pour une exposition qui dresse le couvert à la Villette, on est à Paris.
Sous vos yeux, vous avez des petits modules qui sont des ravioles farcies, mais de couleur verte, dans une forme particulière, pyramidale, en forme de triangle. Quelques points de sauce mousseuse vert tendre.
Coup de cœur pour l'exposition du Banquet qui se tient effectivement à la Cité des Sciences et de l'Industrie jusqu'au 7 août prochain. Exposition que j'ai trouvée absolument fabuleuse, immersive pour petits et grands. On débute en fait par l'univers de la cuisine. On va apprendre les gestes avec notamment des professeurs de l'école Ferrandi qui ont été filmés. Ils ont des ustensiles qui sont reliés avec des capteurs. Donc vous êtes là en train de rouler une pâte à pâtisserie avec vraiment un rouleau mais qui est relié à une table. Et ça va vous dire si vous appuyez bien, si vous exercez pas trop de pression d'un côté ou de l'autre. Ça va vous montrer.
Ah oui.
Et ensuite, vous obtenez effectivement une petite note. Donc on a la même chose avec la mandoline. On apprend à couper une pomme de terre à la mandoline, à monter une chantilly. On a aussi les plats signatures. Donc on a entendu là Anne-Sophie Pic nous parler de son plat signature. Donc ça, c'est vraiment le premier univers autour de la cuisine. Ensuite, on passe sur l'univers des goûteurs, où là, on va tester, parce qu'on nous donne un petit QR code à l'entrée. On a un petit distributeur à madeleine. Elle est d'une certaine couleur. Vous allez la goûter. Et ensuite, on vous demande de donner l'arôme, le parfum que vous avez découvert. Bien évidemment, l'idée, c'est de tromper un petit peu. Donc, ça va être assez saisissant. Vous avez aussi des dégustations de chocolat pour donner les qualités organoleptiques que vous aurez trouvées. Est-ce que ce sera un chocolat qui est boisé, qui est amer, qui est sucré? Et troisième univers, c'est l'univers de la table, où là, on est convive. On apprend effectivement les manières de table. Et surtout, on a cette immense table qui fait peut-être 15 mètres de long, blanche. Alors, c'est absolument fabuleux. C'est un peu comme ultraviolet à Shanghai. C'est-à-dire que vous avez...
Là, vous évoquez le restaurant de Paul Perret.
Donc là, vous avez un univers où il y a une projection. Donc, vous avez les plats qui arrivent devant vous, donc sur cette table blanche. Vous avez les odeurs
L'odeur de la mer, l'odeur de la vanille, enfin, c'est absolument époustouflant avec de la musique. On est transporté sur ce banquet. Et franchement, moi, je dis courez-y.
Ah oui, donc vraiment, visiblement, une exposition assez spectaculaire, immersive, avec l'appui de tous les moyens technologiques.
Comme sait très bien faire la Villette, pour petits et grands.
Mais qui marche bien pour les enfants.
Qui marche bien pour les enfants, mais pour les grands aussi.
Et combien de temps on doit consacrer à une visite de cet endroit?
Il faut environ 45 minutes, une heure, je dirais, pour avoir bien le temps de faire les différentes étapes. Parce qu'on a vraiment une progression. On démarre en tant que commis. Et puis ensuite, on apprend sur la dégustation et on termine par les arts de la table et effectivement une partie un peu plus historique.
Courez en famille de préférence à l'expo Banquet qui se tient à la Cité des Sciences jusqu'à l'été prochain, c'est ça, hein,
août 2022.
Un grand merci Déborah Dupont pour ce coup de cœur. Et on termine en beauté, petite finale sucrée grâce à Elvira Masson. Il est temps de se quitter les amis, mais pas n'importe comment, autour d'une bûche qui a du caractère et qui pourrait bien vous laisser bûche bée.
Oui, aïe, aïe. On va arrêter les boissons alcoolisées.
Vous avez chacun une part de bûche, mais normalement un petit carré de pâte de fruits. Je vous recommande de goûter.
J'ai déjà mangé, il est voilà. Succulent.
Mais il fallait commencer par ça parce que c'est un petit peu moins persistant en goût que la bûche, évidemment.
Extra.
Est-ce que vous saurez me dire quel est le parfum de cette pâte de fruits?
Agrumes?
Non.
Non, d'accord, on est à côté de la plaque.
Alors,
moi, je décelais beaucoup de fraîcheur.
C'est une bûche et c'est une pâte de fruits qui ont été confectionnées par les pâtissiers de la Reine Astrid, qui est une petite maison, un chocolatier pâtissier qui fait un super travail, qui est d'ailleurs très engagé dans une démarche vertueuse, qui a sa propre petite coopérative de cacao au Cameroun, qui travaille vraiment en circuit court pour tous les produits, même laitiers, qui pratique un chocolat éthique. La bûche et la pâte de fruits ont été imaginées par le chef pâtissier, Mathieu Zoupetti, qui était un ancien second de Sébastien Godard à Paris, qui fait un super boulot. Il y a quelque chose de particulier dans cette bûche et cette pâte de fruits.
C'est l'insert au milieu.
C'est l'insert. Oui,
qu'est-ce qu'elle est bonne surtout? Jeu de texture, un goût de cacao éclatant.
Craquant.
Un superbe cacao trinitario. Oui. Il y a quelque chose de particulier. Oui. Il y a une matière, un ingrédient.
Un peu translucide.
Déborah en train de deviner.
Parce que j'ai beaucoup testé au salon du chocolat.
Ah bah voilà. Donc, un produit qui est une substance, quand je vous parlais de substance végétale, visqueuse.
Un peu, oui.
Et qui donne de la fraîcheur.
Quand j'ai parlé d'agrumes, c'était aussi la matière qui servait à la pâte de fruits?
Absolument.
Ah.
C'est une pâte de fruits de pur mucilage.
Mucilage.
Le mucilage.
J'ai bien fait de me taire.
C'est la substance visqueuse qui est extraite de certains végétaux. En l'occurrence, il s'agit du mucilage du cacao, c'est-à-dire la fine chair blanche qui protège la fève à l'intérieur de la cabosse. C'est très bon, ça a ce petit goût fruité, acidulé, très parfumé. Donc c'est une pâte de fruits pure mucilage.
Quelle prouesse.
J'en ai une là qui est couverte de gruée. C'est une matière que les chocolatiers ont peu travaillé jusqu'à présent, c'est une matière qu'on jetait alors qu'elle est délicate. Celle-ci vient d'une toute petite récolte brésilienne. Le mucilage a simplement été congelé, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien d'autre. Il est travaillé comme une nouvelle matière première qui n'est pas nouvelle, enfin qui est aussi ancienne que le cacao. Et c'est un nouveau terrain de jeu, d'abord anti-gaspi, parce que pourquoi jeter une substance aussi géniale et aussi passionnante pour les chocolatiers? Et c'est une matière qui donne lieu à un champ de créativité.
Par exemple, moi j'étais au cassoulet en début d'émission.
Voilà, mucilons le cassoulet, tout.
C'est au Salon du Chocolat, le chocolatier Chapon, qu'il sert en boisson très très fraîche, et c'est très bon pour la santé.
Le mucilage de cabosse de cacao, à le vent en poupe, on va en voir un peu partout.
Et c'est même des jus de mucilage de cacao.
Et c'est une bonne nouvelle, parce que c'est une matière dont on se débarrassait, et désormais elle est recyclée, en plus elle est fraîche, elle a une belle texture, bravo. La bûche de la Reine Astrid.
Oui.
Bravo.
C'est super. Hein.
Oui, il est temps de se quitter, les amis.
Allez.
On trinque.
Trinquons.
Alors, on ne se permettra pas de souhaiter encore ce qu'il faut à nos auditeurs. C'est un peu trop tôt, mais on peut se contenter de leur souhaiter de très joyeuses fêtes.
Fêtes.
Cheers.
Santé.
Excellente fête gourmande à tous nos auditeurs. La semaine prochaine, on vous met à la diète, mais attention sans vous punir. Infusions et condiments naturels au menu pour rehausser notre cuisine du quotidien et pour se revitaliser en ce début d'année. Une émission avec le colporteur de tisane Adrien Poirier, la pâtissière naturopathe Jennifer Hartsmith, nos chroniqueuses Zazie Tavitian et Manon Fleury seront de la partie. À dimanche prochain, si vous avez encore faim. Salut les amis.
Salut,
à bientôt. Bon dimanche.